Éric Pictet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes directeur du bureau de Paris de Musinic & Co. On va parler avec vous de marché obligataire. Alors, on pourrait dire que c'est pas une première, hein, mais c'est déjà arrivé sur ces marchés-là. Mais on a retrouvé de la volatilité sur les marchés obligataires. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur les marchés actions, bien entendu, avec sans doute l'action de la Réserve fédérale américaine, ou en tout cas les déclarations. Est-ce que ça change pour l'investisseur quand il y a ce type de volatilité qui arrive sur le marché?
Ben, sur les obligations d'État, c'est relativement nouveau, parce qu'il faut revenir à 1994 pour avoir une année vraiment négative. Souvenez-vous, en 1994, les marchés obligataires d'État avaient fait moins 10%. Quand on regarde depuis le début de l'année, uniquement sur le mois d'ailleurs de mai, le 10 ans américain fait plus que moins 3%, et même le marché aussi allemand a fait moins 2%, à peu près pareil sur le marché anglais. Donc c'est important de voir l'importance qu'ont les taux, surtout quand on a des taux aussi bas. Parce que quand vous montez de 50 ou 60 BP et quand vous êtes à 1,60, forcément, vous avez un effet démultiplicateur. Donc, bien sûr, la Réserve fédérale vient de changer sa politique, ou va annoncer qu'elle va changer sa politique, va réduire sans doute ses achats de 85 milliards à 60 milliards à partir du mois de septembre. Et ça a un effet. Je pense qu'elle va de toute façon gérer ça d'une manière relativement intelligente, comme elle a toujours fait d'ailleurs depuis un certain temps. En revanche, bien sûr, ça a des conséquences plus ou moins importantes sur toute la courbe et sur toutes les classes obligataires.
Alors, pour autant, est-ce que cette classe-là, on l'a vu, a été complètement délaissée au profit des actions? On a vu beaucoup effectivement, d'intérêt sur les actions. Ça s'était vu d'ailleurs sur les indices, hein, boursiers. Est-ce que pour autant, les investisseurs ont véritablement changé leur allocation, d'après vous?
Ben finalement, assez peu pour l'instant. Quand on regarde les obligations high yield, qui est notre partie à nous, l'année dernière, vous avez eu, sur la même période de l'année dernière, vous aviez eu 19 milliards de souscriptions nettes. Depuis le début de l'année, vous avez simplement 2 milliards aux États-Unis. Ça reste positif, c'est beaucoup moins important. Alors c'est sûr que les gens aujourd'hui ont peur de la hausse des taux, et c'est pour ça que les loans aux États-Unis ont eu beaucoup de souscriptions nettes depuis le début de l'année. À la différence de la partie européenne, les loans peuvent être intégrés dans les fonds mutuels, ce qui change également beaucoup la façon d'investir. Et les loans en Europe sont beaucoup moins développés qu'aux États-Unis. Les loans aux États-Unis permettent à la fois d'investir dans les sociétés, mais de ne pas avoir pratiquement de duration et de pouvoir investir à un spread par rapport à un Libor sans pratiquement duration.
Alors, il y a peut-être une question sur la réaction des investisseurs, parce qu'on pourrait dire qu'elle a été identique sur les marchés américains, que sur les marchés sur cette volatilité, hein, que sur les marchés européens, alors que ce ne sont pas les mêmes marchés. Est-ce que ça, c'est un peu comme les actions, quand il se passe quelque chose à Wall Street, on le retrouve en Europe? Pour la partie obligataire, on a un peu le même type de raisonnement?
Ben c'est vrai que la situation aux États-Unis, en tout cas économique et en Europe, n'est pas du tout la même. Puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on sort un petit peu des problèmes. On a un marché de l'emploi qui s'améliore. On a le marché immobilier qui s'améliore également. Et la bourse, on sait que les Américains, ce qu'ils regardent, c'est le marché immobilier et le marché boursier en Europe. Et donc, on a une croissance 2, 2,5, ce qui n'est pas exceptionnel, mais qui est en tout cas largement positive. En Europe, on a bien sûr d'autres soucis, mais le monde étant tellement intégré qu'on regarde effectivement les deux. Et si on a un changement de politique de la Fed, bien sûr, ça aura des conséquences en Europe, et ça l'est déjà, pardon.
Alors, dans une étude, hein, récente, vous avez donc présenté le marché des leverage loans. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'est-ce qu'on va trouver derrière ce marché et quel est l'intérêt pour l'investisseur éventuellement institutionnel de s'y attarder?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. Les investisseurs institutionnels, en fait, ont mis assez longtemps à aller vers l'investment grade et vers le high yield. En fait, vers le corporate. La grande différence que vous avez, c'est qu'aux États-Unis, 70% du marché est ce qu'on appelle désintermédié. Et c'est le marché, en fait, qui finance les sociétés. Et c'est 30% les banques. En Europe, c'est complètement l'inverse. Donc, la façon de financer peut être de différentes façons. On parle des loans et on parle du private placement. Et souvent, il y a une confusion d'ailleurs entre les deux. Il n'y a pas de statut réellement de loans, puisqu'en fait, essentiellement en France, mais les choses sont un petit peu différentes dans les autres pays d'Europe. Mais l'idée, c'est qu'en France, par exemple, une banque, le banque a l'exclusivité bancaire. Et donc, par conséquent, une société de gestion ne peut pas faire de créance. Donc, il y a des choses réglementaires derrière. Mais l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'en France et en Europe, d'une manière générale, avec Bâle 3, les banques doivent réduire leur bilan. Comment on va pouvoir, en fait, financer les sociétés, soit à travers des loans, soit à travers du private placement. Les loans, c'est plutôt des sociétés de taille relativement importante, Maintenant, elles ne peuvent pas être intégrées dans des UCITS pour l'instant. Et le private placement, ce sont des prêts en direct à des ETI, voire à des PME. L'intérêt des loans, qui est différent du private placement, c'est que vous avez des prêts à 6, 7 ou 8 ans, mais vous avez un resetage tous les 3 mois, donc vous n'avez pas de risque de duration et vous avez une protection qui est plus élevée que pour les high. En gros, vous êtes pari passu par rapport aux banques.
Alors on parle plutôt de contrat là, hein, dans ce cas-là, donc une espèce d'assurance. C'est pas la même chose, tout à fait la même chose. Effectivement, il y a des questions juridiques.
Exactement. Ce ne sont pas des securities, ce ne sont pas des titres. Et on regarde, effectivement, on a le souvenir de fin 2008 où les loans avaient complètement explosé aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de leviers. Or, le levier aujourd'hui a quasiment disparu. Et au niveau administratif, même si c'est un contrat entre la société de gestion, la banque et un administrateur, globalement, ça va très vite. Donc le settlement, le règlement livraison, est un peu plus long que les titres. Ça ne dure pas 3 jours, ça dure 7 jours. Mais aujourd'hui, c'est relativement aisé. Mais donc, on a quand même pas mal d'institutionnels qui commencent à s'intéresser à ce marché-là aux États-Unis. Simplement, ils ne savent pas où rentrer encore cette asset class dans leur allocation d'actifs.
Alors, on parlait en introduction de la volatilité sur ces marchés obligataires. On l'a vu aussi sur le high yield. Hein. Comment, justement, quel est l'état un peu de ce marché aujourd'hui et est-ce qu'il existe encore des opportunités sur ce marché-là et on va dire qu'il y a peut-être un peu plus d'investisseurs sceptiques aujourd'hui.
Bien sûr que le grand chemin a été fait. Néanmoins, le cycle du high yield encore n'a pas pu se faire parce que les entreprises ont eu peur de l'environnement économique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des spreads qui sont remontés à 600 au courant du mois de mai et vous avez des spreads à 500 et des yields qui sont à 6%. À ces niveaux-là, vous êtes à la moyenne historique. Vous avez des taux de défaut qui sont à 1 ou 2 et qui ne vont pas vraiment augmenter. Vous avez des sociétés qui sont bourrées de cash et qui, même si le levier a un tout petit peu augmenté depuis un an, leur coût de financement a baissé puisque les taux ont baissé dans la même proportion. Depuis le début de l'année, vous avez des émissions extrêmement importantes. L'année dernière, vous avez eu 360 milliards d'émissions et vous en avez déjà 148 depuis le début de l'année. Donc on est, enfin non, 205, je me trouve, c'était l'année dernière, 205 et 148 milliards à la même époque l'année dernière. Mais 75%, c'est du refinancement. Donc en fait, il n'y a pas de levier supplémentaire sur le marché. Les sociétés en profitent pour se refinancer. Maintenant, il faut qu'elles investissent, parce que c'est ça le souci. Il faut qu'elles maintenant, elles investissent pour le futur et qu'elles recrutent pour que ça soit un bien pour l'économie.
Voilà, et ça reste effectivement encore à faire. Merci Eric Pictet d'avoir fait le point avec nous. On rappelle, vous êtes donc le directeur du bureau de Paris de Musinic & Co.
Merci Didier.